Chapitre 37. La renaissance de l'âme. Jésus était assis dans la salle d'entrée du temple et beaucoup de gens venaient pour recevoir son enseignement. Et l'un d'eux lui demanda : « Seigneur, qu'enseignes-tu sur la vie ?» Et il leur dit : « Bénis sont ceux qui endurent beaucoup d'expériences, car à travers les souffrances, ils deviendront parfaits. Ils seront comme les anges de Dieu au ciel, et ils ne mourront ni ne se réincarneront plus, car la mort et la naissance n'auront plus d'emprise sur eux. Ceux qui ont souffert et surmonté seront érigés en piliers dans le temple de mon Dieu, et ils ne le quitteront plus jamais. » En vérité, je vous le dis, si vous ne renaissez pas par l'eau et par le feu, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » Et un rabbi, appelé Nicodème, vint vers lui pendant la nuit, parce qu'il avait peur des Juifs, et il lui demanda : « Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le corps de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, il faut qu'un homme renaisse en chair et en esprit, sinon il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu entends bien son mugissement, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. La lumière brille d'est en ouest, le soleil monte des ténèbres et redescend vers les ténèbres. C'est ce qui se passe avec l'homme d'une vie à l'autre. » Quand le soleil sort des ténèbres, il existait déjà avant, et quand il redescend vers les ténèbres, c'est pour y rester un peu et ensuite réapparaître. C'est ainsi qu'à travers de nombreuses transformations, vous devez devenir parfait. Comme il est écrit dans le livre de Job : « Je suis un voyageur, et je vais d'un endroit à l'autre et d'une maison à l'autre, jusqu'à ce que je sois arrivé dans la ville et dans la maison qui sont éternelles. » Et Nicodème lui demanda : « Comment cela est-il possible ?» Et Jésus répondit en lui disant : « Tu es un enseignant en Israël, et tu ne comprends pas ces choses ? En vérité, nous parlons de ce que nous connaissons, et rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si je vous parle de choses terrestres, et que vous ne me croyez pas, que diriez-vous si je vous parlais de choses célestes ? Personne n'est monté au ciel. » Mais du ciel est descendu celui qui est dans le ciel, c'est-à-dire le Fils de l'homme. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Bénis soient ceux qui endurent beaucoup d'expériences, car à travers les souffrances, ils deviendront parfaits, signifie l'homme qui accepte ses péchés, pouvant parfois se manifester par des souffrances, et se reconnaît lui-même comme pécheur dans la souffrance, dans la maladie et la détresse, qui se repent, demande pardon, pardonne, répare et ne commet plus les péchés, recevra des forces par l'expiation et redeviendra parfait. La mort et la naissance régneront sur le pécheur jusqu'à ce qu'il dépose ses péchés et accomplisse la volonté de Dieu. Son âme commencera alors à luire. Tous deux, âme et homme, aspireront au ciel. Et s'ils ont tout surmonté malgré la souffrance, l'âme entrera dans le royaume de Dieu. Voyez, si l'âme vient des ténèbres, c'est-à-dire si elle s'est chargée dans des existences antérieures sur terre et n'a pas réparé ses péchés, elle restera un certain temps dans les règnes des âmes et reviendra ensuite dans l'existence terrestre. Elle cherchera la chair, un habit terrestre, jusqu'à ce qu'elle ait réparé ce qu'il a toujours attiré sur terre en habit terrestre. Pour les âmes, la terre restera donc un pôle d'attraction magnétique tant qu'elles n'auront pas expié et transformé ce qui les a toujours attirées vers l'existence terrestre. En effet, certaines charges portent les lourdeurs de la terre, attirant sans cesse les âmes vers la terre jusqu'à ce qu'elles soient effacées. Beaucoup d'âmes ne trouvent pas de repos dans les plans de purification tant qu'elles sont sous l'influence de cette attraction terrestre. Par contre, les charges causées par les âmes en habit terrestre, mais ne portant pas le poids de la terre, peuvent être plus rapidement effacées dans l'au-delà. Heureux les âmes et les hommes qui réparent sur la terre les fautes qu'ils y ont causées, avec la grâce du Père, car ici-bas, celle-ci agit plus intensément. Voyez, le temps approche toujours plus où les âmes lourdement chargées ne pourront plus revenir aussi facilement sur terre. Car la terre va être purifiée, et toute la planète Terre, ainsi que tout le système solaire, sera élevée et affinée dans sa structure. Une réincarnation des âmes lourdement chargées ne sera alors plus possible. Elles se sentiront comme liées au plan de purification sur les planètes qui correspondent à l'état de ces âmes, c'est-à-dire à leur niveau de conscience. Là, elles devront endurer ce qu'elles auraient pu expier sans trop de peine sur la terre. L'âme en l'homme renaît dans l'esprit de Dieu si durant son existence terrestre, elle aspire au ciel et oriente heure après heure et jour après jour ses sensations et ses pensées vers Dieu et s'harmonise ainsi à lui. Les paroles et les actes d'un tel homme sont divins. Après la mort physique, cette âme montera graduellement au ciel parce qu'elle aura activé le ciel en elle. Le chemin vers le cœur de Dieu est l'amour désintéressé. La manière de l'atteindre, moi et la sagesse divine sur terre, nous l'enseignons par des révélations. La parole de la vérité s'écoule à travers mon instrument dans ce monde. Ma parole sert d'aide, de salut et de joie à tous ceux qui parcourent le chemin de l'amour désintéressé. Ce qui est écrit explique pourquoi les âmes vont et viennent. Nul ne peut monter au ciel qui n'a développé le ciel en lui. Toutes les âmes et tous les hommes sont cependant descendus du ciel et entreront à nouveau au ciel parce qu'ils sont issus du ciel. Ma mission en tant que rédempteur est de les reconduire tous au Père éternel dans les cieux éternels.
Chapitre 38. Sur le fait de tuer les animaux. Le réveil de l'adolescent de Naïn. Et quelques-uns de ses disciples vinrent à lui et lui parlèrent d'un Égyptien, un fils de Bélial, qui enseignait que ce n'était pas contre la loi de faire souffrir les animaux, si leur souffrance était utile aux hommes. Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui tire avantage de l'injustice qui aura été faite à une créature de Dieu ne peut pas être juste. Pas plus que ne peuvent s'occuper de choses saintes ni enseigner les secrets du ciel ceux dont les mains sont tachées de sang et dont la bouche est souillée par la viande. »
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Voyez, tout ce qui vit ressent. Comme l'homme, toutes les formes de vie, que ce soit des animaux, des plantes ou des pierres, ressentent joie et peine. La vie est conscience. La conscience rayonne d'innombrables facettes d'évolution du « je suis ». La conscience, c'est aussi le processus de devenir conscient. Hommes, animaux, plantes et pierres ressentent selon leur niveau de conscience. Voyez, celui qui chasse des animaux sera un jour lui-même chassé. Celui qui martyrise des animaux sera un jour lui-même martyrisé. Celui qui exploite la vie de la terre sera exploité par ceux qui l'ont amené à faire cela. Chaque semence porte sa récolte. Ce que l'homme sème tombe dans le champ de son âme. De là, cela germe et pousse. Chaque semence porte déjà son fruit en elle. Ainsi, celui qui est contre son prochain et contre les règnes de la nature est aussi contre Dieu, car Dieu, la vie, est présent dans tout ce qui est. Voyez, l'homme qui n'accomplit pas les lois de Dieu charge son âme. Les mains de celui qui martyrise ou tue des animaux sont tachées de sang. Celui qui mange la chair des animaux, qui pollue et viole la nature, est impur. De tels hommes ne peuvent ni s'occuper de choses saintes, ni comprendre ce qu'on appelle les mystères des cieux. De ce fait, ils ne peuvent pas non plus enseigner et expliquer les lois des cieux. Celui qui enseigne le très saint, les lois des cieux et donne des directives à ses semblables pour qu'ils s'y tiennent sans lui-même s'y tenir, ne recevra l'approbation que de ceux qui vivent à sa manière et pensent comme lui. Tout ce qui se fait sans Dieu n'est pas durable à la longue et reculera comme la nuit devant le jour. Le temps est proche où la lumière dévoilera tout et où les hommes verront combien est éloignée de Dieu la vie de ceux qui les ont instruits et leur ont conseillé de se tenir aux lois de la vie, tout en ne s'y tenant pas eux-mêmes, ceux dont les mains sont tachées de sang et dont le corps est sali par la consommation de viande. Les moulins de Dieu moulent lentement. Un jour, l'ivraie sera séparée du bon grain. Ceux qui sont remplis de Dieu seront à ma droite, et l'ivraie, ceux qui sont sans Dieu, devront se purifier selon la loi des semailles et des récoltes.
Dieu donne les graines et les fruits de la terre comme nourriture. Et pour l'homme juste, il n'y a pas d'autre nourriture pour le corps qui soit conforme à la loi.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Dieu donne les graines et les fruits de la terre comme nourriture. Et pour l'homme juste, il n'y a pas d'autre nourriture pour le corps qui soit conforme à la loi. Ces mots signifient « Dieu donne aux hommes, du sein de la mère terre, tout ce dont le corps terrestre a besoin pour vivre. Celui qui accomplit les lois de l'amour dans ses sensations, ses pensées, ses paroles et ses actes, vit également de ce que la mère terre lui offre. » Vraiment, beaucoup d'hommes sont sur l'échelle de Jacob, qui aboutit au temple pur de la vie. Beaucoup d'hommes sont encore de grands pécheurs, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il le reste pendant des décennies, ou même plusieurs incarnations ou séjours dans les règnes des âmes, jusqu'à ce qu'ils soient touchés par les effets des causes qu'ils ont produites. Du temple de l'amour, Dieu tend cependant la main à chacun, même aux plus grands pécheurs. L'être éternel, le Père universel enseigne sans cesse l'évangile de l'amour par moi, le Christ. Sans cesse, âme et homme sont instruits afin de vivre les uns pour les autres, de développer le sens de la communauté de la vie intérieure, et aussi de s'abstenir de tuer les animaux et de consommer leur viande. Les âmes, aussi bien que les hommes, sont constamment exhortés à ennoblir leurs sensations et leurs pensées, afin que leurs sens s'affinent également. Car tant qu'un iota d'impureté est encore dans l'âme, elle ne peut entrer dans le ciel. Selon la loi, un homme qui garde ses pensées et ses paroles pures, qui élève ses actes vers Dieu, se détache toujours davantage de la nourriture morte, de la viande et du poisson. Cela jusqu'à ce qu'il soit suffisamment purifié pour accepter avec reconnaissance les dons venant du sein de la mère terre. Ce qui est impur ne salira pas celui qui est pur. Si lors d'un repas où il est invité, il consomme de la viande offerte et préparée avec joie par ses hôtes, il fait preuve d'attention à leur égard, car ils se sont donné de la peine pour lui être agréable. On peut dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, par exemple, les quelques bouchées de viande qui salit le corps, mais ce qui en sort, les sentiments, pensées et paroles sans amour, emplis de haine et de jalousie. Ce sont eux qui salissent l'âme et le corps. Cependant, l'assouvissement du désir ardent de consommer du poisson, de la viande et de l'alcool charge l'âme et salit le corps. Dans une conversation d'ordre général avec tes hôtes, toi l'invité, tu pourrais faire remarquer que tu te détaches de plus en plus du besoin de consommer de la viande et du poisson pour avoir reconnu que la nourriture morte ne sert ni l'âme ni le corps, car la loi de Dieu est vie. C'est par de telles indications que ton hôte, qui est également sur l'échelle de Jacob, peut commencer lui aussi à réfléchir, de sorte qu'il puisse se purifier et progresser sur cette échelle, échelon par échelon. Chaque mot et chaque acte désintéressé servent le salut de ton prochain. Lors de bonnes conversations désintéressées, plus d'un peut reconnaître ce que moi, le Christ, en tant que Jésus, j'ai commandé aux hommes. Pour l'homme désintéressé, droit, il n'y a pas d'autre nourriture pour le corps que la nourriture légitime offerte par la nature, les graines et les fruits. En outre, j'ai commandé aux miens de ne pas se mortifier, mais d'affiner leurs pensées et leurs sens. C'est ainsi que se réduit la consommation de nourriture morte, de viande et de poisson. Par l'affinement de l'âme et de l'homme, ce qui n'est pas légitime disparaît. Cela n'est donc pas refoulé, mais effacé par une vie en moi, le Christ.
Le voleur qui s'introduit dans une maison bâtie par des hommes est fautif. Mais même les moindres de ceux qui s'introduisent dans une maison bâtie par Dieu sont les plus grands pécheurs. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui veulent devenir mes disciples que vos mains ne touchent pas de sang, ni vos lèvres de viande, car Dieu est juste et bon, et a commandé que les hommes ne se nourrissent que des fruits et des semences de la terre.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. La loi de la vie dit « Celui qui pénètre de force dans une maison construite par des hommes est coupable devant la loi de Dieu et devant le droit, la loi des hommes. L'homme ne devrait ni voler ni piller. Il respectera le bien de son prochain. Celui qui est dans le besoin devrait solliciter de l'aide, mais ne pas voler ni piller. L'homme qui vole son prochain, quand bien même ce dernier posséderait de grandes richesses, est coupable devant la loi spirituelle et la loi terrestre. Celui qui s'introduit dans la maison de Dieu, dans le temple de l'Esprit Saint, est encore un bien plus grand pécheur. La maison de Dieu, le temple de l'Esprit Saint, c'est le corps humain et l'âme qui est issue de Dieu et qui habite dans le corps humain. Profondément dans l'âme se trouvent l'amour, la sagesse et la justice de Dieu. Dieu habite donc dans l'âme. Par conséquent, l'âme et le corps de l'homme sont le temple de Dieu. Ainsi, celui qui s'introduit dans la maison de chair et d'os, en utilisant la violence envers les hommes, en les assujettissant, en les traitant comme des esclaves, voire en les tuant, pèche contre l'Esprit Saint. C'est le péché le plus grave. Gardez donc vos mains et votre âme pures, pas seulement de vol et de pillage. Mais surtout, n'employez jamais la violence, ni envers les hommes, ni envers les animaux, et gardez-vous bien de verser leur sang. Quelqu'un qui aime son prochain de façon désintéressée ne fera pas usage de violence contre lui, ni ne le tuera. De plus, quelqu'un qui aime son prochain avec désintéressement ne tuera pas délibérément des animaux. Quelqu'un qui respecte hommes et animaux n'a plus d'intention belliqueuse, car il respecte les lois de Dieu qui incluent également les lois de la nature. Quelqu'un qui s'efforce de mettre en pratique les lois de Dieu se détachera toujours plus de la nourriture carnée. Il acceptera avec reconnaissance les dons de la terre, c'est-à-dire la nourriture que Dieu offre à ses enfants humains.
Mais si un animal souffre beaucoup et que sa vie lui est devenue un tourment, ou s'il devient dangereux pour vous, alors délivrez-le de sa vie, rapidement et avec le moins de souffrance possible. Envoyez-le dans l'au-delà avec amour et miséricorde, et ne le faites pas souffrir. Et Dieu, votre Père, vous montrera sa miséricorde, comme vous avez montré votre miséricorde à ceux qui vous sont confiés.
Le Christ explique, rectifie et approfondit la parole. Moi, le Christ, je donne également cette parole révélée au cours du gigantesque changement d'air, pour attirer une nouvelle fois votre attention sur le fait que la vie des animaux, des plantes et des minéraux est également dans la main de Dieu, comme l'est celle des hommes. De nombreux hommes se sont détournés de Dieu, Père-Mère, pour s'adonner au matérialisme. Cette orientation vers l'extérieur a pour conséquence de rendre les sens des hommes plus grossiers. C'est la raison pour laquelle l'homme perd sa sensibilité fine à ressentir ses semblables ainsi que la nature. Il ne perçoit plus et n'a plus d'intérêt que pour lui-même, pour son moi. Aussi ne prête-t-il plus attention qu'à lui-même et à la satisfaction de ses propres désirs, sans jamais penser à l'état de ses prochains, qu'ils soient humains ou animaux. Les animaux souffrent des hommes dominateurs. C'est pourquoi, à cette époque, on ne peut pas dire sans réserve. Mais si un animal souffre beaucoup et que sa vie lui est devenue un tourment, ou s'il devient dangereux pour vous, alors délivrez-le de sa vie rapidement et avec le moins de souffrance possible. Car aujourd'hui, beaucoup d'animaux endurent continuellement des souffrances et des supplices en raison de la brutalité du moi humain. Ici, on ne peut pas dire « libérez ces animaux en les délivrant rapidement de leurs souffrances et de leurs supplices ». Moi, le Christ, je vous dis, essayez de ressentir en sensation les souffrances et les supplices qu'ils endurent. Ressentez-les en vous et reconnaissez comme ils souffrent en raison de votre comportement humain. Il vous est commandé de vous changer en vous vouant à Dieu, de telle façon que vous puissiez ressentir et comprendre à l'intérieur de vous-même vos prochains humains ou des règnes de la nature, les animaux. Voyez, ce que vous faites aux animaux, vous le faites aussi à moi, le Christ, et également à vous-même. Les souffrances et les supplices des animaux seront un jour votre propre souffrance et vos propres supplices. Dieu, l'Éternel, a également remis les animaux dans la main de l'homme, non pas pour qu'il les fasse souffrir, mais pour qu'il vive avec eux. Que l'homme soit pour l'animal, et l'animal sera alors aussi pour l'homme, et il le servira avec joie. Quand un animal souffre beaucoup des suites d'un accident ou parce qu'il est devenu vieux, que l'homme délivre alors rapidement de son corps terrestre et avec le moins de souffrance possible la vie spirituelle de l'animal, l'âme partielle ou le rayon partiel, et la remette avec amour et miséricorde dans les mains du Créateur éternel. Lui, le grand Tout-Un, connaît chaque animal. Il l'a créé et vit en tant que force dans l'âme partielle ou dans le rayon partiel. L'âme partielle ou le rayon partiel de l'animal sont des forces de conscience développées de l'esprit universel qui sont devenues formes spirituelles.